Donc là, c'est les outils. En fait, c'est presque le pouvoir qu'on acquiert par cette
C'est le
expérience.
pouvoir que vous acquérez grâce à l'outil. L'outil, vous savez ou vous ne savez pas le manier. Si vous savez le manier, ça ne dépend que de vous. La structure absolue ne règle rien. C'est un outil qu'on met à votre disposition. Vous savez ou vous ne savez pas vous en servir. Et en vous en servant, vous obtenez ou vous n'obtenez pas de résultat selon que vous avez une science acquise chez vous suffisante pour poser le problème correctement ou pas le poser. Voilà. C'est un outil à la disposition de n'importe qui. Et c'est pour ça que je dis, il faut que ce soit des spécialistes de telle ou telle discipline. Guénon dit d'une même façon, sous une autre forme, pardon, au fond la même façon, il n'y a pas d'ésotérisme sans dessous un exotérisme. On ne peut faire de l'ésotérisme si on pratique un exotérisme. Il dit ça d'une façon beaucoup trop, selon moi, dogmatique, en appliquant ça aux religions existantes. Moi, je dis, il n'y a pas de conversion réelle si on n'a pas une base scientifique, scientifique au sens le plus banal, n'est-ce pas, au sens le plus classique du terme. Et c'est à partir de cette base qu'on va au-delà, qu'on fait une véritable conversion. C'est pour ça que j'attache une telle importance à la conversion des savants. Voyez-vous ? Alors pour enchaîner avec ce que je viens de vous dire, cette recréation phénoménologique qui est illuminative, qui vous donne l'impression effectivement que vous comprenez la Kabbale, que vous la revivez sous une autre forme, avec d'autres termes, avec des termes d'ailleurs qui, du fait de l'interprétation sémantique des racines hébraïques, vous sortent complètement du petit symbolisme approximatif, n'est-ce pas, des termes usuels, car on les a transformés en symboles, ces termes-là, n'est-ce pas, et d'une façon, à mon avis, gratuite, poétique peut-être, mais gratuite, émotionnelle, esthétique, mais pas gnostique. Alors avec cette étude-là, vous êtes sur le plan gnostique, vous reconstituez en vous, là il y a une véritable conversion intérieure qui se fait incontestablement, illuminative, n'est-ce pas, parce que ces relations-là vous parlent. Mais il y a beaucoup plus à faire, il y a maintenant à interpréter, alors si l'on peut, à interpréter ces relations dans le langage d'une science nouvelle. Alors c'est là que ça débouche, c'est ce que vous posez, la question que vous posiez, qui était très pertinente au début de notre entretien, savoir à quoi ça peut servir, quant à l'interprétation du monde, d'une cosmologie nouvelle, etc. Alors ça, je vous dis, moi personnellement, j'en sais rien. Je ne peux faire que des hypothèses, ou exposer des intuitions, bonnes ou pas bonnes. Alors moi, je me dis, actuellement, j'ai l'impression que cette géométrie de l'espace, que donne l'idée de Sefer Yetzirah, donne l'impression d'une géométrisation de l'espace. Le Saint, béni soit-il, est au centre du monde, il fait tourner les séphirotes béliman, il fait tourner les six pôles. Ça y est textuellement dans le texte. Le Saint béni soit-il, il voit le pôle d'en haut, le pôle d'en bas, le pôle de l'est, etc. Avec des permutations, on a l'impression d'une sphère orientée. Et quand on fait des calculs, on s'aperçoit effectivement qu'il y a orientation, qu'il y a rotation, qu'il y a basculement même des pôles. Bon. Peut-on en tirer les hypothèses cosmogoniques ou cosmologiques? Des simples directions, des simples intuitions de recherche. Alors j'ai dit, il est possible que ce soit une science et des orientations de l'espace. Voilà ce que j'ai dit, je n'ai pas au-delà, bien entendu. Il est possible que ce soit une science et des orientations de l'espace. Qu'est-ce que va chercher Einstein toute sa vie? À réduire toutes les lois du monde, de la cosmologie à la géométrie de l'espace. Pour lui, c'était, ce qui comptait, c'était de géométriser l'espace. Einstein était un homme d'une intuition géniale, bien entendu, c'est probablement au XXe siècle l'homme qui a eu les intuitions les plus extraordinaires qu'on connaisse. Ben, il voulait tout réduire à la géométrie, à des propriétés de situation, comprenez-vous, topologique, si vous voulez appeler ça la topologie pour employer le terme à la mode. Bon. Y est-il arrivé? Non. Mais il le pressentait. Il l'a pressenti, il le cherchait. Bon, ben, je me dis, peut-être que ces textes contiennent quelque chose comme ça. Évoquent en tout cas quelque chose comme ça. Je suis bien incapable de vous dire par quel... Alors, scientifiquement, comment, hein, ça? Une simple intuition, une simple impression que je peux avoir. La sphère de Séphirot de Bélima est une organisation tellement cohérente, tellement... Et en même temps qu'elle est cohérente, elle est tellement anisotrope, pour employer le mot des géomètres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les propriétés de l'espace varient dans toutes les directions. C'est sidérant, c'est d'une beauté étonnante, à mon avis. Quand on a un peu le sens de la géométrie, c'est d'une beauté extraordinaire. Rien que ça, crée la nécessité d'une conversion. Écoutez, je conçois très bien Einstein d'ailleurs, Einstein, vous savez, c'était un type finalement extrêmement mystique. Finalement très mystique, bien que les religions n'intéressent pas spécialement, il était extrêmement mystique. Il avait la maladie. Quand il disait Dieu ne joue pas au dé avec le monde, cette parole va très loin, très très loin, nonobstant tout ce que peuvent dire certains physiciens quantiques qui, à mon avis, rabaissent le problème. Même s'ils ont raison du point de vue expérimental. Quand ils parlent d'indéterminisme, je crois qu'ils se fichent complètement droit dans l'œil. Einstein était très déterministe, il n'était pas indéterministe au sens, mais pas au sens de la physique linéaire, bien sûr. Il était déterministe au sens de l'idée qu'il y a un seul univers avec des lois, qu'il y a partout des lois qu'il faut connaître. Et même si l'électron nous échappe, comme dans les expériences de mécanique quantique, c'est parce que nous avons des instruments d'observation insuffisants, nous-mêmes peut-être, mais il y a quand même un déterminisme qui joue. Les gens actuels, je vous le signale d'ailleurs récemment, confondent indéterminisme et imprévisibilité. Si vous êtes familier avec ces problèmes-là, vous verrez à quel point cette distinction est capitale. Quand ils parlent d'indéterminisme, ils en parlent d'une façon en quelque sorte émotionnelle et esthétique. Ils veulent à tout prix maintenir ce qu'ils appellent la liberté ou le libre arbitre. Bon, ben, à mon avis, il y a une erreur de vocabulaire fondamentale de confondre le déterminisme, qui est une notion philosophique, et la prévisibilité, qui est une notion physique. Évidemment, c'est imprévisible. Le comportement de l'électron, il est imprévisible. D'accord.
Il n'est pas.
Comment ?
C'est pas pour ça qu'il
mais dire qu'il n'est pas. Mais dire qu'il n'est pas déterminé, c'est une autre question. Comment c'est une toute autre question. Je ne tranche pas, mais je signale quand même l'ambiguïté du vocabulaire. Le mot déterminisme et indéterminisme ou le mot déterminisme sont pris dans des acceptions extrêmement différentes par tous ces gens-là. Parce qu'ils les réduisent pas. C'est là que Husserl est important. C'est qu'il oblige à faire ce qu'on appelle la réduction à l'essence, la réduction eidétique. Premier stade de la phénoménologie. Quand vous avez un mot, essayez de voir ce qu'il y a derrière, l'essence qui se cache derrière. Je me dis que c'est pas commun, hein, pour des mots comme déterminisme ou indéterminisme, il faut s'y coller. Il faut s'y coller. C'est là qu'on s'aperçoit que beaucoup de savants, beaucoup de philosophes, et notamment les littéraires, qui n'ont pas de culture scientifique et qui emploient les mots des sciences à tort et à travers, sous forme métaphorique, on s'aperçoit qu'ils racontent des blagues, n'est-ce pas ? En fait, ils ont une pensée floue. Moi, je deviens de plus en plus, si vous voulez, homme de science, enfin je voudrais, je ne le suis pas, et malheureusement j'ai perdu le contact depuis un demi-siècle. Mais je considère que la philosophie actuellement n'est plus que les scientifiques qui devraient s'en occuper. Quand je la vois entre les mains des littéraires, je suis affolé, quoi, ils font des métaphores, c'est tout. Alors peut-être extrêmement sévère, vous savez, là-dessus, ça je vous garantis, j'ai beaucoup d'amis qui font de la philosophie des sciences, qui sont des scientifiques, je vous garantis que les philosophes à la mode, alors, hein, la philosophie française actuelle dans la vitrine, c'est celle qui est spectaculaire, celle qui se propage à l'étranger, c'est pas variant entre nous. Hein. Quand on dit que le désordre est à la base de tout, que le chaos est formatif, tout ça c'est de la poésie, ça c'est pas de la science. Ce sont des concepts négatifs, n'est-ce pas, qui n'ont aucune, pour parler le langage de la philosophie, qui n'ont aucune générativité. On ne peut pas créer à partir du chaos. Le chaos, c'est le chaos, c'est tout. Du non-être, disait, je crois, Démocrite, je crois, on ne peut sortir que le non-être. Alors mettre le chaos et le désordre, ou le bruit, ou tout ça, c'est très joli. Ça fait de la belle poésie.